chapitre 2, verset 12. Voilà ce qui est écrit. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Amen. Et retenez cette parole du verset 15. Publier un jeûne, une convocation solennelle. Et puis nous allons lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 2 et au verset 18. Voilà, c'est peut-être plus facile à trouver. L'évangile de Marc, chapitre 2, verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Amen. Voilà. Vous avez noté, je pense, que dans ces deux textes, il est question de quoi? De jeûner. Pour faire un jeu de mots facile, eh bien, je dirais qu'en France, on aime mieux plutôt déjeuner que jeûner, souvent. Alors, en quoi consiste le jeûne biblique, celui dont la parole de Dieu nous parle? Eh bien, il s'agit tout simplement de s'abstenir pour un temps de nourriture, éventuellement de boisson, pour consacrer un temps particulier à Dieu. Attention, jeûner, c'est pas faire de l'anorexie, hein. Il y a des gens qui se privent régulièrement de nourriture parce que ils ont un problème de santé, un problème psychologique qui fait que, eh bien, ils sont frappés de ce mal. Ça n'a rien à voir. Jésus, dans le texte que nous venons de lire, dans l'évangile de Marc, nous dit qu'après son départ, il se présente là comme étant l'époux divin, l'époux céleste. Après son départ, c'est-à-dire son retour auprès de son Père dans le ciel, ses disciples jeûneront. Et c'est pourquoi dans le livre des Actes, vous l'avez peut-être noté, n'est-ce pas, notamment au chapitre 13 et puis dans d'autres textes encore, il est question des chrétiens qui jeûnaient et qui priaient. Donc c'est un exercice spirituel que les chrétiens se doivent de pratiquer régulièrement, et à la lumière de la parole de Dieu, nous ne voyons pas que c'est quelque chose qui est réservé à des spécialistes, à des gens particulièrement sensibles aux choses de Dieu, particulièrement spirituelles, qui serait en quelque sorte dans l'Église le dessus du panier. Et leur spiritualité serait tellement importante que eux pourraient s'adonner aux jeûnes, à la prière, et puis les autres s'en abstenir allègrement. Non, 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 c'est une pratique spirituelle qui devrait être pour les chrétiens que nous sommes ordinaire, habituelle. Alors il y a d'abord le jeûne personnel. On peut consacrer une journée, une demi-journée, s'abstenir d'un repas, de plus peut-être, pour consacrer un temps particulier à Dieu, parce qu'on en sent le besoin, parce que Dieu nous appelle, parce qu'on aime la présence de Dieu, et qu'on se plaît en sa présence. Jésus a parlé de cela, n'est-ce pas ? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, eh bien, il nous dit dans quelles conditions adéquates ce jeûne personnel doit se pratiquer. Il dit, lorsque vous jeûnez, donc il s'attend à ce que nous jeûnions, lorsque vous jeûnez, il ne dit pas si vous jeûnez, mais lorsque vous le faites, parce que vous devriez le faire, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Voilà, ces gens-là cherchent l'approbation des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Si j'en crois ce texte, il y a une bénédiction, une mesure de grâce qui est attachée à cette pratique du jeûne. Ça, c'est le jeûne personnel. Maintenant, nous avons lu tout à l'heure, il y a un instant, dans le livre de Joël, il y a aussi le jeûne collectif, n'est-ce pas ? Publier un jeûne, une convocation solennelle. Et là, c'était tout le peuple, nous sommes en Israël, tout le peuple qui était invité à se rassembler, et non pas simplement à s'abstenir de nourriture pour se donner des crampes d'estomac, mais à consacrer une journée, eh bien, à la pratique du jeûne, en se tenant devant Dieu, en invoquant le Seigneur, en intercédant et en priant. Alors pourquoi jeûner ? Pourquoi les chrétiens devraient-ils ? Pourquoi les chrétiens doivent-ils ? Pourquoi le peuple de Dieu se doit-il de pratiquer le jeûne ? Ça n'est pas un acte méritoire, non. Parce qu'avec le Seigneur, on ne mérite jamais rien. Ok ? Tout est par grâce. Ça n'est pas non plus une méthode pour racheter la bénédiction de Dieu. Seigneur, je me prive de nourriture et en compensation, tu vois ce que je me suis imposé, c'est difficile, aïe aïe aïe. À cause de ça, j'achète ta bénédiction. Pas du tout. C'est quoi ? C'est plusieurs choses. D'abord, c'est un signe d'humiliation. En Israël, dans l'Ancien Testament, il y avait ce que l'on appelait le jour des expiations. Et ce jour des expiations se reproduisait d'année en année. C'était un jour très particulier, puisque le sacrificateur, n'est-ce pas, offrait des sacrifices à l'Éternel. Il recueillait le sang de la victime expiatoire. Il portait ce sang dans l'intérieur du lieu très saint. Vous savez que dans le tabernacle, aussi dans le temple, il y avait deux parties, le lieu saint, le lieu très saint. Et une fois par an, le souverain sacrificateur, le grand prêtre de la religion israélite, eh bien, écartait le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il pénétrait dans la sainte et redoutable présence de Dieu. Et là, il portait le sang du sacrifice, il l'aspergeait sur le couvercle de l'arche qu'on appelait le propitiatoire, etc., etc. Et pendant ce temps, le peuple tout entier devait s'humilier, devait, n'est-ce pas, consacrer cette journée spéciale à l'humiliation. Tout le monde devait y participer, s'humilier, se repentir, se livrer à un examen de conscience, se remettre personnellement et collectivement en question. C'était donc une journée solennelle qui avait pour objectif de recevoir le pardon des péchés. Et même si tout le cérémoniel, qui se déroulait dans l'Ancien Testament n'a plus lieu d'être, aujourd'hui notre souverain sacrificateur, c'est Jésus. Et il est entré pour nous, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, n'est-ce pas ? Mais il n'en demeure pas moins que il y a des temps, il y a des moments où, personnellement, mais aussi collectivement, il faut savoir prendre un temps pour se remettre en question, pour que, en tant que croyants, puissions nous humilier, ça ne remet pas en cause la réalité de notre salut, se repentir et régler les choses qui doivent être réglées en vue du pardon des péchés. Un signe d'humiliation. C'est aussi le jeûne un moyen d'exprimer son affliction face à une situation douloureuse, une situation dramatique que nous pouvons connaître personnellement, que nous pouvons connaître sur un plan plus général. Par exemple, dans l'Ancien Testament encore, vous avez Anne, la mère de Samuel. Vous vous rappelez ? Cette femme était stérile et sa rivale, puisque le mari était bigame, elle avait des gosses en pagaille, n'est-ce pas ? Et Anne était profondément bouleversée par cette situation. Et d'autant plus qu'à cette époque, en Israël, une femme qui n'était pas en mesure de mettre au monde des enfants, c'était une honte, c'était une opprobre. C'est comme s'il y avait une marque infamante sur sa vie. Alors elle a eu recours à la prière. Et là, dans le temple de Dieu, elle a répandu son âme devant le Seigneur, face à sa souffrance, face à son désarroi, face à son opprobre, face à sa frustration. Elle a invoqué Dieu. Elle a reçu une parole. Le sacrificateur lui a dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu as fait monter vers lui. Et la Bible dit que son visage s'est transformé, vous voyez. Jusque-là, elle était affligée, elle était tourmentée. Son visage ne fut plus le même, et elle mangea. Donc si elle a mangé, c'est qu'auparavant, elle s'en était abstenue, parce que son affliction était si grande que même l'intérêt pour la nourriture était accessoire. Et elle consacrait ce temps qu'elle aurait consacré peut-être d'habitude à se nourrir. Elle consacrait ce temps à la prière parce qu'elle voulait absolument que Dieu intervienne. Et Dieu est intervenu. Amen. Et Dieu est intervenu. Et elle a mis au monde le petit Samuel et puis d'autres enfants par la suite. Et cette femme au cœur affligé a pu ainsi se réjouir. Ça, c'était sur le plan personnel, une situation douloureuse, dramatique. Ça peut être aussi sur le plan plus général. Vous avez dans la parole de Dieu le livre d'Esther. Est-ce que vous avez remarqué que le livre d'Esther, c'est le seul livre de la Bible qui n'emploie jamais le nom du Seigneur? C'est étrange. Il n'est jamais question de Dieu. Et pourtant, il est présent. Mais il est présent en filigrane. Et la Bible dit que en ce temps-là, le peuple juif était menacé d'extermination. Vous savez, plusieurs fois dans le cours de l'histoire, le diable a eu ce projet d'exterminer le peuple juif, parce que c'est le peuple élu de Dieu et il ne peut pas supporter ça. Et à l'époque d'Esther, il y a eu un projet fomenté par un ennemi, Aman, qui a voulu exterminer, liquider la totalité du peuple d'Israël. Et voici que Dieu, dans sa providence, je vous disais qu'il était toujours présent, a fait en sorte que ce soit une juive, une israélite, Esther, qui devienne la reine du pays. Et de par sa position auprès du roi, elle était en mesure d'intervenir, de plaider la cause de son peuple pour qu'il soit préservé, protégé et non pas exterminé. Mais voilà, les lois étaient sévères à cette époque-là et on ne comparaissait devant le roi que si on y avait été convoqué. Et c'était une loi qui s'appliquait même à la reine. Alors elle a pris le risque, voyez, elle a pris le risque, sans y être convoquée, de comparaître devant le roi pour plaider la cause et la défense de son peuple. Mais auparavant, elle, ses servantes et tout le peuple juif ont décidé 3 jours de jeûne et de prière, s'abstenant de boire et de manger. Et ensuite, elle est venue devant le roi et tout s'est bien passé parce que Dieu avait disposé favorablement le cœur du monarque en réponse à la prière. Vous voyez, il y avait un danger extrême. Il y avait une situation extrêmement périlleuse, difficile, et elle a senti qu'elle avait besoin du soutien de Dieu, du secours de Dieu pour que sa demande d'épargner le peuple soit agréée de la part du roi. Le jeûne, eh bien, c'est aussi ce qui doit accompagner l'intercession. J'aime bien ce qui est dit dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 9 et au verset 1er. Là aussi, une situation difficile. Voici ce que cet homme de Dieu nous relate dans le chapitre 9, le verset 1er de son livre. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confection, etc., etc. Il y avait une situation d'urgence, comprenez le contexte. Daniel est déporté à Babylone. C'est vrai que sa position est assez enviable, puisqu'il est un ministre de l'empereur. Sur le plan matériel, il n'y a pas de souci, mais il se préoccupe de son peuple. Il s'aperçoit en lisant le livre du prophète Jérémie, que vous avez dans votre Bible, que Dieu a décrété qu'il y aurait 70 ans, pendant lesquels le jugement de Dieu, n'est-ce pas, s'abattrait sur le peuple d'Israël qui avait désobéi à Dieu. Les armées babyloniennes ont envahi la ville de Jérusalem. La ville a été détruite, le temple ruiné et le peuple déporté. Mais Dieu avait dit 70 ans après, je les ramènerai. Et voyant la date fatidique approcher, Daniel nous dit qu'il a, décidé de recourir à la prière et aux supplications, à l'intercession, en jeûnant. Pour que la promesse divine s'accomplisse, il fallait absolument que Dieu intervienne. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Il fallait que la grâce de Dieu se manifeste. Il fallait que la situation du peuple puisse évoluer favorablement. Il y avait là chez Daniel une motivation profonde, une prise de conscience. Il se sentait profondément concerné par la situation du peuple de Dieu. Et le résultat, c'est que si vous lisez la suite de ce chapitre 9 au verset 23, un ange lui est apparu, dites, et lui a dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Ça a marché. Dieu a exaucé. Dieu a répondu à la prière de son serviteur, à l'intercession qu'il a fait monter vers Dieu dans le jeûne et la prière. Prendre du temps pour chercher Dieu et se tenir en sa présence. Nous voyons cela, par exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 13, au verset 1er. Il est question, c'est dans le Nouveau Testament cette fois, des responsables spirituels de l'église d'Antioche. Elle était riche, spirituellement parlant, cette église. Il est dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Verset 13. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas, ou plutôt Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Voyez, pendant ce temps où ces responsables spirituels, ces éminents hommes de Dieu, prophètes, docteurs, enseignants, eh bien, c'était là, devant Dieu, dans le jeûne, la prière, le Saint-Esprit s'est exprimé, et Barnabas et Paul ont reçu cette vocation missionnaire. Ils ont reçu un appel précis de la part du Seigneur. Tout cela, suite au jeûne. Ça constitue encore, eh bien, une marque de renoncement à soi-même. Renoncement à soi-même. Parce que, au travers du jeûne, nous manifestons notre intention de privilégier les intérêts spirituels que l'on juge supérieurs aux intérêts matériels et même aux besoins les plus légitimes, Manger, se nourrir, c'est un besoin légitime. Mais pour un temps bref, évidemment, eh bien, on choisit de mettre de côté ses intérêts légitimes pour considérer que les intérêts spirituels sont supérieurs. Et on prend du temps pour jeûner. Alors aujourd'hui, là, en 2015-2016, Pourquoi jeûner de nos jours? Pour les mêmes raisons qu'autrefois. Pour les mêmes raisons qu'autrefois. Pour que le péché n'exerce plus ses ravages dans les rangs de l'Église. Il ne faut plus que parmi les chrétiens, il y ait des familles disloquées. Il ne faut plus que nous ayons parmi nous, mes amis, de séparation, de mésentente conjugale, de divorce à déplorer, comme c'est parfois le cas. Il ne faut plus qu'il y ait au milieu du peuple de Dieu des situations morales équivoques et parfois désastreuses. Il ne faut plus qu'il y ait des défections trop nombreuses, mais que ceux qui se sont engagés un jour par le baptême soient fidèles au Seigneur, fidèles à l'Église, et que les égarés, les fils et les filles prodigues, puissent réintégrer le troupeau. Il ne faut pas que le diable sème dans nos rangs la discorde, le désordre, la confusion. C'est son objectif. Apôtre Paul dira dans une épître, nous n'ignorons pas ses desseins. Sachez qu'individuellement et collectivement aussi, le diable nous hait. Vous comprenez ça? Il nous a, vous et moi, personnellement et collectivement, dans sa ligne de mire. Il veut casser, ruiner, détruire, briser, anéantir les croyants et l'œuvre de Dieu. Et nous avons quelque chose à faire. C'est de nous tenir devant Dieu. Et ces situations que je viens d'évoquer rapidement doivent produire chez nous de l'affliction. On ne peut pas rester insensible ni indifférent. On doit se sentir concerné. On ne peut pas dire c'est la faute des autres, moi. Je suis dans le coup, j'ai compris, moi je jouis d'une relation avec Dieu exceptionnelle et les autres pas. Non, non, non. Ça doit produire affliction, humiliation, repentance personnelle et même collective et rupture avec le péché. Devons avoir le désir que la vie de l'esprit soit renouvelée au milieu de nous. Le baptême dans le Saint-Esprit, ça existe. Béni soit Dieu pour ceux qui l'ont expérimenté. Les dons spirituels, c'est une réalité. J'y crois. Mais il faut qu'ils soient authentiques. Le fruit de l'Esprit, nous devons le porter, nous dit la parole de Dieu. De telle sorte, voyez que nous avons besoin, mais alors sérieusement, de nous tenir devant Dieu. Frères et sœurs, je me permets de vous interpeller. Pourquoi ? Pourquoi sommes-nous si peu nombreux dans les réunions de prière? Pourquoi, lorsqu'il y a un jour de jeûne, de prière, sommes-nous le poignet à combattre dans l'intercession? Pourquoi? Est-ce que nous pensons qu'il n'y a plus rien à faire? Que l'Église est à ce point, dans une situation catastrophique, même de prier, ça ne sert plus à rien? Non, mes amis, il faut retrouver notre motivation. Il faut retrouver notre zèle. Il faut retrouver notre ferveur. Pour retrouver notre intérêt pour la présence de Dieu. Que Dieu qui peut changer les choses. Ni vous, ni moi, on peut s'escrimer, on peut bouger. Mais c'est dans la présence de Dieu. Et puis, encore, il y a la crise des vocations, vous savez. Si les choses continuent comme ça, nous allons avoir des tas d'églises qui vont, sous peu, dans notre pays, je parle des assemblées de Dieu, se retrouver sans pasteur. parce que le nombre, il y en a, grâce à Dieu, de ceux qui entrent dans le ministère est inférieur au nombre de ceux qui sortent pour diverses raisons, et notamment à cause de la retraite. Dans le livre des Actes, nous venons de le lire, ils ont jeûné, ils ont prié. Dieu a suscité des vocations. Paul et Barnabas ne se sont pas envoyés. Le texte dit, le Saint-Esprit les a envoyés parce que là, dans ce temps de jeûne et de prière, eh bien l'action du Seigneur s'est faite sentir et Dieu a parlé. Et que Dieu fasse, qu'il en soit ainsi. Que suite à notre jeûne, notre prière, eh bien, soient suscités des ministères, se lèvent des prédicateurs rois du Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des jeunes qui se lèveraient du sein de cette assemblée d'Annecy, qui recevraient un authentique appel pour être prédicateurs de la parole? Et puis, priez, jeûnez. Ne croyez-vous pas que notre pays en a terriblement besoin? Il vient de se passer des choses, là. Est-ce qu'on va se contenter, nous, chrétiens, de se désoler en disant « Aïe, 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 vous savez, frère, c'est les temps de la fin. » Oui, certes. Notre pays vit des temps dramatiques. La violence, les attentats, l'insécurité. Les responsables politiques qui maîtrisent mal la situation, malgré, je pense, leur bonne volonté. L'état moral et spirituel qui se dégrade. L'Écriture dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On y est en plein. Vous comprenez ça? On ne peut pas se payer le luxe de vivre et de continuer notre petite vie bourgeoise, comme si de ne rien n'était. Nous avons, en tant que croyants, une responsabilité. Parce que nous savons qu'il y a dans le ciel un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Et que dans d'autres temps, d'autres lieux, alors que la situation était dramatique, en réponse à la prière, Dieu est intervenu. Dieu a agi. Le peuple de France est indifférent, réfractaire, hostile au message de l'Évangile. Vous notez cela? C'est vrai, oui ou non? On parle à un Français des choses de Dieu. Dans le meilleur cas, s'il est poli, il se tait. S'il est moins poli, il vous envoie balader. C'est vrai ou pas? Vous parlez à quelqu'un qui est un peu brun de peau, il vous écoute. Le peuple français est particulièrement hostile à l'Évangile. Et nous croyons que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et qu'il est capable, dans votre famille et dans la mienne, d'amener des âmes au Seigneur. Ça fait 45 ans que ma femme est convertie. Dans sa famille, elle a rendu témoignage. Ils sont venus aux réunions. Mais leur cœur est encore fermé. Et je pense que dans beaucoup de familles, c'est la même chose. Les conversions sont peu nombreuses. Peu nombreuses. Et nous voulons qu'un peuple nouveau se lève pour Jésus. Un peuple se lève pour Jésus. Il y a des pays où la proportion de chrétiens est importante. Nous recevions il y a quelques années de cela en Avignon un frère mexicain. Et je lui disais, frère, combien y a-t-il de chrétiens, de pourcentage de chrétiens évangéliques dans votre pays? 30% de la population. Sur une population de 100 millions, ça fait, vous faites le compte, 30 millions. Nous, en France, nous sommes à moins de 1% de la population. Une poignée. Mais Dieu peut changer ça. Parce qu'il est tout puissant. Et parce qu'il l'a fait en d'autres temps, en d'autres lieux. Que se produisent encore parmi nous des guérisons, des miracles authentiques. Oui, j'arrive au terme de notre réflexion. Dieu reste le Tout-Puissant. Il est donc temps aujourd'hui encore de chercher Dieu dans le jeûne, et dans la prière. Dans le deuxième livre des Chroniques, il y a ce texte important, sinon fondamental, que nous trouvons au chapitre 7 et au verset 14. Si mon peuple, ce n'est pas les païens là, c'est le peuple de Dieu, c'est Dieu qui parle, hein. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, on invoque le nom du Seigneur, le nom de Jésus parmi nous. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, ouais, il ne faut pas oublier ça, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Notre pays est malade, mais Dieu est capable de le guérir. Alléluia. Alors si cela éveille en vous un écho, il faut être pratique, pragmatique. Si cela éveille un écho, je vous propose que déjà vendredi soir, nous ayons un temps dans le jeûne et dans la prière. Il n'y aura pas de prédication ce soir-là. La salle sera ouverte à partir de 19h. Je sais que pour diverses raisons professionnelles, familiales, tout le monde ne peut pas être là à 19h. Mais entre 19h et 21h, voire 21h30, on va s'appliquer à la prière. Une convocation générale pour un temps de jeûne et de prière. Ça ne concerne pas quelques habitués seulement. Même si vous ne pouvez être présent qu'un quart d'heure, parce que il y a d'autres obligations, parce que vous avez eu une longue journée de travail, parce que. Demi-heure. Soyez là, mes amis, et invoquons ensemble le Seigneur. Puis il ne faudra pas que ce soit simplement une fois, mais que nous puissions, de temps à autre, répéter l'opération. On relit le livre de Joël, en terminant, si vous voulez, et je vais conclure là. Joël, chapitre 2, verset 15. « Sonnez de la trompette en Sion, » Sion c'est Jérusalem, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Amen. Prions. Notre Dieu,